Le droit est nous, dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous, on va parler du consentement au contrat. Bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
Dans le numéro Le droit est nous du 9 mai dernier, nous avons abordé les conditions générales du contrat. La connaissance de ces conditions est très importante pour nous permettre de maîtriser les contrats que nous signons pendant toute la durée de notre vie. Comme promis, nous revenons aujourd'hui sur un élément indispensable à la validité du contrat, quelle que soit sa forme ou son contenu, c'est le consentement. Aliou Tal, vous disiez que pour que le consentement soit valable, il faut que notre accord ait été donné librement et en toute connaissance de cause, et que cet accord est nul s'il est affecté par un des trois vices prévus par la loi.
Effectivement.
Première question, quel est le premier de ces vices qui peuvent annuler le contrat que nous avons pourtant bien signé?
Question intéressante, parce qu'a priori, quand on a signé et qu'on n'est pas du tout privé de ses moyens mentaux, normalement, on doit respecter sa signature.
Exact.
Le contrat repose sur un principe fondamental qu'on appelle le principe de l'autonomie de la volonté. Ça veut dire que nul n'est obligé de signer. Mais quand on signe, on doit respecter ce qu'on a signé. Maintenant, on peut donner son consentement et que ce consentement ait été vicié, comme le dit la loi, comme on l'avait souligné la dernière fois. Et pourquoi c'est intéressant ce que nous allons dire aujourd'hui? Parce que tout ce qu'on va faire dans la vie des contrats repose sur ce principe du consentement. On fait des contrats tous les jours. À la boulangerie, on achète une baguette.
Ouais.
Chez Orange, on fait un contrat. Chez Canal+, on fait un contrat pour regarder les matchs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, sur le championnat français. On fait un contrat de bail, on fait un contrat de location, un contrat de leasing. Tous ces contrats reposent sur la théorie générale des obligations. Et cette théorie générale des obligations repose sur le consentement. Le consentement, par contre, doit être valable. Ça veut dire qu'on doit être donné avec conscience, avec un esprit sain et éclairé. Ce qui fait que la loi prévoit des vices qui peuvent altérer notre consentement et par ricochet annuler la validité du contrat. Parmi ces trois vices cités par la loi, nous avons d'abord l'erreur. On peut signer et dire « Ah, je me suis trompé ». Si tout le monde pouvait le dire, vous allez me dire « Non, il n'y aura pas d'économie juridique, il n'y aura pas de commerce juridique ». Avant de signer, comme on est conscient, on doit savoir ce qu'on signe. Par contre, on peut avoir fait une erreur raisonnable. On peut avoir été induit en erreur. Parce que l'autre personne veut que vous signiez coûte que coûte. Donc, l'erreur peut porter sur les qualités essentielles de la chose qui fait l'objet de la vente ou bien sur les qualités personnelles. Quand c'est un individu qui est en face de nous. Quand l'erreur porte sur les qualités de la chose, par exemple, la chose n'est pas destinée à l'usage pour laquelle nous voulons l'acheter. Je donne un exemple. Vous voyez un téléphone bien designé, made in China. Vous pensez que c'est un smartphone. Vous voulez installer WhatsApp ou bien Snapchat ou autre chose, ou bien Facebook, pour appeler au pays. Vous vous rendez compte que c'est juste un GSM avec un look bien designé. Là, il y a une erreur fondamentale. Parce que la qualité essentielle que vous attendez du téléphone, c'est pouvoir vous connecter sur Internet. Si c'est le cas, le contrat est nul. L'erreur aussi peut être des vices cachés. Vous achetez une voiture d'occasion qui, esthétiquement, est très belle.
Ouais, se présente bien.
Se présente bien, et ça arrive souvent, et que le moteur présente des vices que le vendeur ne vous a pas dit. Ou bien que même vous, avec un esprit.
Ça arrive très souvent.
Ça arrive très souvent de consommateurs très éclairés, vous n'êtes pas au courant, vous ne pouvez pas le savoir.
Il faut voir un garagiste.
Effectivement. Le garagiste, parfois, peut ne pas le voir, parce que peut-être il y a un autre garagiste qui a été plus intelligent, ou bien plus malin que lui, ou bien plus rusé, ou bien plus malhonnête, et qui a pu cacher ses vices et qu'on ne peut pas détecter a priori dans cette voiture qui est hyper belle de visu. Donc, si l'erreur est cachée, effectivement. Autre forme d'erreur cachée, dans le contrat de bail, non, dans le contrat de bail ou bien dans le contrat, par exemple, d'achat immobilier. On peut louer un appartement qui est nickel. On se rend compte finalement qu'il y a des blattes.
Exact.
J'ai été contraint de solliciter une maire, en l'occurrence Nathalie Kosciusko qui est morusée, parce qu'il y avait un ami maghrébin qui avait loué effectivement ce cas de figure et qu'il avait des enfants qui se grattaient tous les jours à l'école. On pensait que les enfants ne prenaient pas leur douche alors qu'il y avait des blattes, des insectes qu'on ne pouvait pas voir de visu avant de signer le bail. Sur ce principe du vice caché, on a annulé le contrat et on a sollicité la mairie qui était propriétaire de ce bien qui était un bien HLM quand même de résilier le contrat et de lui trouver un autre bail. Donc ça c'est très important, l'erreur peut porter sur les qualités de la personne, ça peut aussi porter sur les qualités de la chose. Quand ça porte sur la personne, ça peut être les qualités professionnelles. Quelqu'un qui se présente comme Phil le Montagnard, parce qu'il a des compétences en radio. Tout ça, il déclare tout ça, il a le même style que Phil, il limite les manières de Phil, la manière de danser de Phil, tout ce que vous voulez. Même la voix de Phil. On se rend compte que finalement, après le contrat, que non, c'était un mythomane. On peut annuler ce contrat de travail du seul fait que la personne a fait une usurpation d'identité, une usurpation de qualité. Donc ça peut porter sur les qualités personnelles aussi. Ça peut aussi être, par exemple, une personne majeur protégé, ou bien une personne qui est mineure, et que physiquement, on donne un contrat pour accéder à un club réservé à des adultes. quand on a, c'est un contrat. Et que finalement, la personne est mineure, on peut annuler le contrat de cessez-le-feu. Certains mineurs ne peuvent pas signer de leur propre chef. C'est des mineurs qui sont protégés par la loi, soit par une décision de justice, soit par une tutelle ou une curatelle. Si ces personnes signent et que la signature en tant que telle engage leur patrimoine, on peut annuler le contrat du seul fait que l'autre personne majeure et consciente n'a pas fait preuve de diligence, de prudence et de vigilance. Ce qu'on appelle se comporter en bon père de famille pour voir si la personne pouvait contracter ou pas. Donc ça, ce sont des éléments importants. Donc, si je donne un exemple anodin, en matière de personnel, vous voyez une personne, je donne un exemple, j'étais par exemple au Bois de Boulogne en train de courir. Je vois une belle demoiselle qui me sollicite par les gestes pour me demander de venir. Après, je courais. Mais comme elle était belle, je me dis, je vais aller la répondre. Elle voulait un renseignement parce que là, elle est isolée dans ce bois. Mmh. Et je m'approche et je vois la personne, c'était pas du tout une fille, c'était un homme. Travesti. Ouais. Et je vois la voix rauque avec les bras qui étaient quand même comme des voix de bodybuilder. Ouais. Mais j'ai détalé comme un lapin parce que moi, dans ma tête, c'était une fille alors que c'était un garçon. Ouais. Donc si vous vous mariez, si Phil rencontrait une personne comme ça et qui commence à flirter avec cette personne et qui promet le mariage et que Phil se rend compte que cette personne n'est pas ce que la personne qu'elle attendait, parce que Phil voulait hétéro, ça peut être le contraire, hein. Quelqu'un qui voulait un homo qui se tombe sur un hétéro, c'est une clause d'annulation d'un projet de mariage. Pareil, alors, si vous allez dans une discothèque, comme ça arrive souvent, par exemple, vous allez dans une discothèque, une boîte de nuit, vous rencontrez une fille hyper bien maquillée la nuit avec aussi tout ce qui est botox et autres, le lendemain, vous vous rendez compte que, ou bien plus tard, après avoir fait du cyber chatting pour vous marier, vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne. C'est une cause, c'est une erreur sur la personne qui peut entraîner l'annulation d'un contrat de mariage qui était prévu.
Alors, quel est le deuxième vice qui affecte notre consentement dans un contrat?
Alors, le deuxième, c'est comme une erreur, mais expressément provoquée, ce qu'on appelle le dol. Le dol, c'est une erreur provoquée. Ça veut dire que ça résulte de manœuvres frauduleuses. Par contre, toutes les manœuvres pour vous inciter à vendre ne sont pas dolosives. Je donne un exemple. C'est ce qu'on appelle le bon dol et le mauvais dol. Mmh. Le dolus bonus et le dolus malus.
Ouais.
Comme en assurance, on parle de malus, ça vient de là, du mot latin grec, mauvais. Donc, le mauvais dol, c'est celui qui consiste à vous induire expressément en erreur. Ça va être, par exemple, des mensonges pour vous induire à signer. Ça peut être une dissimulation intentionnelle d'une information qui serait capitale pour vous, qui peut conditionner votre consentement. Mmh. On occulte cette information pour que vous puissiez signer, alors qu'a priori, si vous aviez l'information, vous n'allez pas signer. Par contre, le fait de faire une affectation psychologique pour vous induire à signer, à acheter un bien, n'est pas forcément mauvais. Oui. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vous dit, voilà le téléphone que j'ai. Ce téléphone-là, c'est un iPhone 2 ou 3.
Oui.
C'est juste un iPhone 2 ou 3 qui coûte 200 euros. Mais si la personne parvient à vous démontrer que une certaine star avait le même téléphone, et qu'avec ce téléphone, à chaque fois qu'il sortait, il avait le succès, ça, ce n'est pas mauvais, c'est du bon dol. Je donne un exemple dans nos pays africains, comme le Sénégal que je connais bien, où les commerçants sont très forts à vous vendre, par exemple, un seul objet anodin en y affectant une valeur psychologique. Ce fait n'est pas un dol qui peut entraîner l'annulation du contrat. Donc, le dol se résume aux manœuvres frauduleuses destinées à exagérer la valeur du contrat et à vous obliger à signer, à extorquer votre consentement.
Alors, pour finir, quel est le troisième de ces vices?
Alors, le troisième de ces vices, c'est la violence. On peut penser qu'a priori, on ne peut pas contracter par violence. Parce que normalement, la violence, on dit qu'on ne peut pas frapper quelqu'un pour le signer. Alors que ça arrive. Il est arrivé qu'en matière de succession, on ait mis le pistolet sur la tempe d'une personne pour lui dire signer.
Bon, de signer,
oui. C'est pas que dans les films, ça arrive en vérité. Donc, mais globalement, c'est le consentement qui est donné sous la contrainte d'exposer sa personne, sa fortune ou sa famille à un mal considérable. Donc ça veut dire que la violence peut ne pas être physique. Elle peut être psychique, elle peut être psychologique. Ça peut être une menace d'une action judiciaire pour vous contraindre à signer un contrat ou bien à continuer. Je donne un exemple. Un employeur qui sait que son employé trompe sa femme. Je donne un exemple.
D'accord.
Et que de ce fait, pour le dénoncer, et que la personne ait peur de la suite au niveau de sa vie matrimoniale, continue d'exécuter un travail au-delà des clauses du contrat. Au lieu que la personne travaille 7 heures, l'employeur lui fait travailler 8 heures des heures supplémentaires qui ne sont pas payées parce qu'il y a cette menace-là.
Ouais.
Donc le contrat en tant que tel, le contrat de travail, c'est un contrat exécution successive. À chaque fois qu'on se lève pour aller au travail, c'est comme si on signe le contrat à nouveau. Quand on vous maintient dans ce rapport contractuel suite à une menace, c'est de la violence qui peut entraîner la résolution du contrat et des demandes d'intérêt à votre profit. Ça, c'est un élément très important. Ça peut être un abus de dépendance aussi. L'abus de dépendance économique. Je donne un exemple. On le voit souvent. D'ailleurs, on va y revenir, je pense que c'est très important la semaine prochaine, concernant le règlement européen sur la protection des données. Quand on va sur Facebook, quand on va sur Google, quand on va sur un site internet, on nous demande de cliquer sur des conditions générales. On ne les lit pas. Même si on les lit, on les a lus, on est obligé de le faire pour pouvoir avoir le service ou la prestation qui est proposée. Donc là, il y a une dépendance économique. On n'a pas le choix de dire non. On l'a traité la dernière fois, le 9 mai, dans le numéro concernant donc, le contrat et les conditions générales. Ouais. Nous l'avons traité pour dire qu'il y a des contrats d'adhésion. Adhésion, c'est qu'on adhère à des clauses qui ont été prédéterminées et qui nous sont proposées par un contractant qui a une force économique supérieure. À partir de ce moment, si on démontre que c'est l'état de dépendance économique qui nous a obligés à signer, notre consentement n'est pas neutre, n'est pas éclairé.
Alors, Aloutal, permettez-moi de vous couper. On va prendre notre ami Mahmoudou. Hein. Mahmoudou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une question, Mahmoudou?
Ah oui, justement, j'ai une question.
C'est en fait, Mahmoudou Gassama?
Non, c'est Mahmoudou Salé.
Nous vous écoutons.
Oui, en fait, j'ai écouté l'exemple de Maître Tal sur les vices de consentement.
Ouais.
Il a donné un exemple sur le mariage. Il dit, par exemple, quand tu rencontres une fille bien maquillée ou dans une soirée et tout, que tu peux évoquer le simple fait qu'elle était maquillée pour demander l'annulation du projet de mariage. En fait, moi, j'ai récemment vu une décision de la Cour de cassation qui dit exactement le contraire, parce que la Cour de cassation dit que dans les histoires de mariage, c'est un peu plus complexe que ça. On ne peut pas demander l'annulation du projet de mariage pour vice de consentement sur des critères farfelus, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Donc, je voudrais signaler ça. Je ne sais pas si je suis sûr de ce que j'ai dit, mais le simple fait de voir une femme maquillée, bien maquillée, je ne sais pas si voir la femme sans maquillage peut justifier une annulation du projet de mariage.
Voilà. Merci Mahmoudou pour la question.
Merci Mahmoudou pour la question. En fait, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que juste il y a un maquillage, parce que les femmes peuvent se maquiller, se démaquiller. C'est le fait que, je n'ai pas dit immédiatement, il y a une femme maquillée, il y a une femme avec une présentation extérieure qui vous fait penser que voilà la qualité que vous espérez de cette personne et qu'il y a un projet de mariage. Entre le jour où vous l'avez rencontré et le projet de mariage, en général, il n'y a pas 24 heures. On n'est pas dans ce cas de figure. Ça, ce serait farfelu. Il faut que l'élément soit fondamental. Si vous avez vu une décision dans la Cour de cassation, il y a d'autres décisions dans la Cour de cassation qui ont dû dire le contraire. Ce n'est pas ça. L'élément fondamental, c'est que l'erreur sur les qualités substantielles de la personne est une cause de l'annulation du consentement. C'est ce que je voulais vous dire à travers cet exemple-là, comme d'autres exemples d'hétérosexualité que vous avez rencontrés.
On va prendre une autre question. Nous avons Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Phil et bonjour Maître Tal.
Bonjour Bernard.
Je peux poser la question à Maître Tal. Quelle joie. Voilà.
Merci.
Ma question est toute simple, Maître Tal.
Ouais.
Vous signez un contrat avec un fournisseur d'accès en matière, par exemple, des télévisions. Je donne l'exemple Canal+ ou bien autre. Vous voyez plus tard, mais le fournisseur vous change. Alors, vous êtes d'abord chez Free, par exemple. Vous changez de fournisseur, vous allez chez Orange. Vous informez Canal+ par un courrier électronique comme quoi vous avez changé de fournisseur. Donc, veuillez faire le nécessaire pour que le signal m'arrive chez moi. Vous constatez 4 mois plus tard que Canal+ n'a rien fait. Par contre, Canal+ continue à prélever régulièrement ce qu'il faut.
Oui.
Vous envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception, nous sommes 6 mois plus tard. Canal+ ne bronze pas.
D'accord.
Mais vous avez été continué à prélever. Vous prenez la décision, j'arrête le prélèvement, vous avisez votre banque. C'est arrêté. Canal+ plus tard vous réclame, vous dites, vous ne m'avez pas payé les 2 mois, il vous poursuit. Quel est mon droit lorsque Canal+ n'a pas respecté le contrat de me fournir le signal pour recevoir la télévision? 6 mois plus tard, je suis prélevé et c'est Canal+ qui me doit à peu près plus de 120-130 euros. Qu'est-ce que je fais?
Voilà, merci notre ami Bernard de Boussy-Saint-Georges.
Merci oui, Bernard, question très pertinente.
Ça va être la dernière question.
La question très pertinente et effectivement c'est très intéressant parce que je pense qu'il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Donc ces prestataires parfois existent de ce que j'appelle la position dominante. Dans votre cas de figure, il y a 2 éléments. D'abord, vous avez manifesté par voie électronique à votre prestataire d'arrêter l'exécution de son obligation. Mais le problème, c'est que pour eux, peut-être que dans les conditions générales qu'ils vous ont demandé, il fallait envoyer un courrier recommandé. Ils n'ont pas pris en compte votre courrier. Dans tous les cas, ils devraient tenir compte de ça. Parce qu'en France, il y a la loi sur l'économie numérique et il y a récemment le règlement européen qui est une loi valable dans tous les pays européens et directement invocable par vous. par ces règlements et par les lois antérieures, l'écrit électronique, à partir du moment où vous pouvez avoir la trace de votre courrier que vous avez envoyé, normalement, il a l'email, vous avez la trace. À partir de ce moment-là, Canal Plus était obligé d'obtempérer par rapport à votre souhait de résilier le contrat. S'il ne l'a pas fait, vous êtes délié de votre obligation contractuelle. Il ne s'agit pas maintenant et plus d'envoyer un courrier. L'écrit électronique existe depuis 2001 et est validé maintenant de manière officielle en Europe. Ça, c'est un premier élément. Autre élément, à partir du moment où Canal Plus n'a pas exécuté ses obligations, vous êtes délié de votre engagement. Comme je l'avais dit la dernière fois, dans un contrat synalagmatique, la cause de l'obligation d'une des parties réside dans l'obligation de l'autre partie. Vous devez payer parce que la prestation vous est donnée et convenablement. Même s'il y a des coupures, vous n'êtes pas tenu donc de payer l'argent que vous doit Canal Plus. En dernier lieu, ça c'est contractuel. Au niveau quasi-délictuel, à partir du moment où l'obligation ne vous est pas rendue convenablement, vous avez un manque à gagner, vous ne regardez pas la télé, vous avez une frustration. Donc sur le plan quasi-délictuel, sur la base de l'article 1240 du Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, vous avez droit à des dommages d'intérêt. Je vous conseille de les poursuivre, pas pour vous, mais pour toutes les personnes qui sont dans votre cas de figure.
Voilà, merci Maître Tal. Oui, nous avons abordé les conditions générales du contrat, le consentement au contrat. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à appeler le standard de la radio africaine et demander le numéro de téléphone, Maître Tal, qui sera donc un plaisir de vous répondre. 0155 07 58 00 ou le 06
16 05 45-51. Et on va y revenir, je pense, la semaine prochaine sur cet élément-là avec les règlements européens qui entrent en vigueur et qui donnent plus de droits aux consommateurs et aux internautes.
Merci, Maître Tal.
Merci, Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.